président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si je osais de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Chers auditeurs de Podcartier, l'émission du groupe Louis Michel sur la Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, Patrick, pour m'aider.
Bonjour.
Bonjour. Et nous recevons deux illustres invités. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Yvan, bonjour.
Bonjour.
Alors, présentez-vous à nos auditeurs.
Moi, je m'appelle Olivier Petitjean. Je travaille pour un média qui s'appelle l'Observatoire des Multinationales. Qu'on a créé avec Yvan au sein d'un autre média qui s'appelle Basta et qui est devenu un média à part entière. Et notre spécialité, donc, c'est d'enquêter sur les grandes entreprises en tant que journaliste.
Et donc Yvan Duroy, donc je suis journaliste également, cofondateur du média Basta, qui est un magazine en ligne sur les questions sociales et environnementales, et qui est un média à prix libre, c'est-à-dire qui fonctionne grâce aux dons de ses lecteurs et lectrices. Et puis ça fait pas mal de temps que j'enquête notamment aussi en tant que journaliste sur les conditions de travail, les grandes entreprises, etc.
Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour votre somme, c'est le cas de dire. Multinationale, une histoire du monde contemporain, aux éditions La Découverte, dans Cahiers Libres. 856 pages.
C'est ça, oui.
28 euros. Mais vraiment, ça les mérite.
Donc, si vous dites.
Ouais. Non, mais on les a lus. Et on va en parler pendant 90 minutes. Mais avant cela, Yvan, un mot pour parler de François Gèze.
Oui, François Gèze, qui nous a quittés il y a un an et demi, qui a longtemps été dirigé les éditions La Découverte. Et en fait, avec qui on a commencé à évoquer ce projet de un peu fou d'histoire mondiale des multinationales. Et voilà, qui nous a accompagnés au début du projet, avec lesquels on a eu pas mal de rencontres et de discussions, et qui malheureusement est décédé avant la sortie du livre. Donc il ne peut pas voir le résultat du bouquin. On lui fait une dédicace d'ailleurs, oui. Une petite dédicace au début du livre. Et voilà, on espère qu'il aurait apprécié l'ouvrage. Et bon, il nous manque pour ses retours critiques et constructifs sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Ou, voilà.
Alors, le 5 février dernier...
On peut peut-être ajouter, excuse-moi, que François Gès est aussi un compagnon de route de Basta, l'Observatoire des multinationales, qu'il était au conseil d'administration de Basta, donc c'est vraiment quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le début. Et d'une certaine manière, il est d'une génération qui a travaillé dans le domaine de la solidarité internationale, en tant que militant et en tant qu'éditeur. Et le fait de ce livre, c'est aussi une manière de rendre hommage à cet héritage de solidarité internationale. On parle beaucoup justement parce que les multinationales sont au centre de ces questions nord-sud, de relations de pouvoir, d'impérialisme, etc.
Donc, oui, pour compléter, j'en profite. Oui, comme on a peu de temps. Il avait, avant d'être à La Découverte, il s'est occupé des éditions Maspero.
Oui.
Et c'est vrai qu'il a très vite... Tout au long de sa vie était engagé, notamment sur ces questions internationales, et qu'il a très vite compris, dès le début des années 2000, l'importance des médias, des nouveaux médias indépendants qui émergeaient en ligne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a soutenu notamment Basta, et puis qu'il a accompagné l'Observatoire et d'autres médias aussi. Et voilà, c'était quelqu'un d'une grande intelligence et d'une grande perception, avec beaucoup d'intuition sur ce qui allait se produire.
Alors, Yvan, donne l'adresse de Basta pour ceux qui voudraient se connecter et faire un don.
Alors, l'adresse du site, c'est basta.media. Donc, vous avez pour consulter les différents articles qui sont en ligne. Et puis, il y a une page de don que vous pouvez trouver assez facilement pour le soutenir si vous appréciez le média.
Et
l'Observatoire des multinationales, donc c'est multinational avec un S, parce qu'il y en a plusieurs malheureusement, .org.
Oui.
Et pareil, on fonctionne en partie sur les dons de nos lecteurs, donc sans faire concurrence à nos amis de Basta.
Voilà.
Vous pouvez aussi soutenir, on vous encourage à soutenir les deux, on devrait faire une offre groupée.
Oui, tout à fait, c'est une idée à voir. Alors, le 5 février dernier, je faisais partie des Happy Few qui ont assisté au lancement du livre. Alors, à l'Académie du Climat, la salle était bondée, jusqu'au bout. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu, Olivier? Parce que ça a été un grand moment, avec des intervenants de très haute qualité, dont Sophie Binet.
Tout à fait. Cet événement, donc déjà, il faut dire que, donc on l'a dit, c'est un livre qui nous a pris pas mal de temps, et avec pas mal des... Donc il y a une soixantaine de contributeurs et contributrices à l'ouvrage, avec lesquels on a travaillé, et pour une bonne partie qu'on n'avait jamais rencontré en vrai, quoi, avec lesquels on a communiqué par courriel. D'autant plus qu'on a commencé il y a quelques années, une époque où les déplacements étaient moins fréquents, il y avait le Covid, etc. Donc voilà, c'était aussi donc pour nous, et peut-être avant tout, d'un point de vue très égoïste, c'était l'occasion de rencontrer, de se réunir avec une bonne partie des auteurs et autrices. Donc c'était vraiment très agréable de les voir, de fêter l'aboutissement de cette aventure. Et mais on voulait aussi, bien sûr, un peu plus sérieusement... Voilà, cet événement, c'est une manière de mettre en relation à la fois la dimension historique qu'on aborde dans cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage, on y reviendra, ça commence en 1850, donc on se plonge profondément dans le passé, mais mettre en relation cette histoire, toutes les questions qu'on aborde au fil du livre, avec les débats et l'actualité la plus contemporaine. Et c'est pour ça qu'on voulait inviter des gens qui sont aujourd'hui, parmi d'autres bien sûr, au cœur de la lutte ou de la confrontation ou de la critique des multinationales. Donc on avait trois invités, en fait, concrètement, qui représentaient un peu le volet économique, le volet syndical, je veux dire, pardon, le volet politique et le volet ONG environnemental. Donc on avait Sophie Binet, effectivement, qui est venue discuter avec nous. On avait Dominique Potier, qui était un député, qui était un des fers de lance de la loi française sur le devoir de vigilance, donc sur toutes les questions de responsabilité juridique des multinationales. Et on avait Lucie Pinson, qui, elle, vient d'une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, qui travaille sur à la fois les questions de la responsabilité des grandes banques, notamment, et sur les questions climatiques. Et donc, il y a une première partie de ce débat où on a un peu présenté, il y avait quelques auteurs et autrices qui ont parlé, présenté leurs contributions, pourquoi ils pensaient que ce livre était important. Et ensuite, on a aussi beaucoup parlé, malheureusement, de l'actualité des multinationales, qui est une actualité de remise en cause, de beaucoup de conquêtes, imparfaites certes, mais importantes quand même, significatives. Et dans ce livre, on montre en quoi elles étaient significatives, comme cette loi sur le devoir de vigilance en France, cette fin partielle de l'impunité des multinationales. Et donc voilà, on a beaucoup discuté de quoi faire dans ce nouveau contexte où voilà, c'est remis en cause, et on assiste aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, à des nouvelles formes d'alliance entre une grande partie du monde des affaires, des fortunes issues de ces multinationales comme Elon Musk, avec les courants d'extrême droite.
D'accord. Alors, Olivier, tu es venu le 15 dernier, le 15 mars dernier, à Radio Libertaire déjà, dans l'émission Chronique syndicale de Hugues, qui a rappelé que tu venais aujourd'hui dans notre émission. On le remercie. Et on lui souhaite une bonne fête parce que c'est son Saint-Patron aujourd'hui. Voilà, sur une radio, sur Radio Libertaire, un peu un clin d'œil. Donc, on va, avant de commencer l'historique des multinationales, faire un plan sur le lexique des termes qu'on va employer le plus. Sachant que dans une dizaine de jours, nous allons remplir tous nos feuilles d'impôts, je voudrais qu'on revienne sur le mot de holding et je vais expliquer pourquoi je fais un parallèle avec la feuille d'impôt.
Bah, une holding, en fait, ce qu'on appelle une holding, pour faire simple, c'est une société dont au lieu de que son but ce soit d'avoir des activités industrielles ou autres, de vendre des services, etc., c'est de détenir d'autres sociétés. Donc on appelle de l'anglais hold, donc c'est une société qui est faite pour détenir d'autres sociétés. Et donc concrètement, dans la structuration des multinationales, ces sociétés holding, elles sont très importantes parce que dans certains cas, elles sont basées dans les paradis fiscaux, par exemple, où elles servent justement à exercer un contrôle sur une société sans le dire. Donc par exemple, pour prendre un exemple plus contemporain, en ce moment on travaille dessus, donc on peut parler du groupe Bolloré,
oui.
Qui est un empilement de holdings les unes sur les autres qui permettent à la famille Bolloré de contrôler des grands groupes comme Vivendi et autres, avec un apport à un capital assez faible, parce que avec cet empilement, ils apportent 50,1% à chaque fois, et du coup, ils ont tout le pouvoir, tout en apportant très peu de capital. Donc c'est vraiment essentiel, et dans l'histoire des multinationales, voilà, ce type de montage juridique, dès le début des... On évoque notamment, il y a un article de Thomas Cantaloub, on va essayer de citer quelques auteurs et autrices au fil du propos, pour les saluer, parce que c'est un travail collectif, sur la Standard Oil, donc le monopole pétrolier de John Rockefeller. Il explique très bien comment cette notion de holding, en l'occurrence sous la forme d'un trust, d'où l'expression de trust qui a été beaucoup utilisée, a été créée dans le New Jersey pour détenir toutes les participations de Rockefeller partout aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir une entreprise qui franchissait les frontières, oui. D'un État américain. Donc voilà, c'est vraiment au début des multinationales, il y a ces montages juridiques que symbolise le holding.
Alors, pour Bolloré, on te voit dans l'excellente émission de Mediapart, à l'air libre, expliquer le système Bolloré, et tu vas faire un condensé au mois d'avril.
C'est ça, on sort un rapport dans quelques semaines, à la fin du mois d'avril, qui voilà. Rappelle quelques vérités sur qui est vraiment Vincent Bolloré, d'où il tient sa fortune, et qui est, voilà,
une synthèse. À suivre. Donc, à suivre sur le site desmultinationales.org.
Tout à fait.
Voilà. Alors, donc, pourquoi je parle de holding et de notre feuille d'impôt? Parce que un économiste, pas n'importe lequel, Gabriel Zucman, milite en ce moment pour que les 378 ménages les plus riches, les ultra-riches, payent au moins 2% d'impôts, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de capital. Et il faut savoir qu'ils ont des holdings dans lesquels les dividendes ne sont pas taxés. Ceci explique qu'ils payent moins d'impôts que vous et moi qui travaillons et qui payons plein pot. Donc d'où le parallèle avec notre feuille d'impôt. J'ai tout bon ?
Oui, tout à fait. C'est une manière de Bolloré, le groupe de Bolloré aussi, c'est à travers ses holdings, ses fameuses filiales luxembourgeoises, que par exemple, les fruits de la revente de ses ports, concessions portuaires et autres en Afrique, pour l'instant, il les garde là au Luxembourg, parce que c'est moins taxé que s'il les faisait remonter en France.
Voilà. Alors, le terme de trust. Alors, peu de gens savent que le trust, c'est une invention qui date du temps des croisades. Alors, je ressors mes petites notes.
Ça, c'est pas dans le livre, hein. c'est toi qui l'as trouvé.
Non.
S'il te plaît, ne nous interroge pas sur les croisades, mais on sera pas...
Oui. Alors, que je retrouve mes notes. Le trust, c'est une construction juridique artificielle qui a pour but l'évasion fiscale et le détournement des successions. Bon, alors, le transfert effectif se fait entre le settlor, celui qui a les biens, et le trustee, et même parfois il y a des clauses d'évasion, des clauses de fuite. C'est-à-dire qu'en cas d'enquête sur le trust, on peut le déménager. Et c'est tout à fait légal. Donc...
Oui, effectivement.
Il y a un chapitre qui s'appelle Trust et Baron Voleur dans votre excellent ouvrage. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on on sache ce que c'est que les
Trust. Trust, effectivement, c'est la forme qu'ils ont choisie à cette époque. C'était dans le New Jersey, parce qu'aujourd'hui, maintenant, pour ceux qui s'intéressent aux questions d'optimisation fiscale, l'État américain dont on parle, c'est le Delaware, parce que beaucoup de multinationales américaines ou autres sont dans le Delaware. À l'époque, c'était pas le Delaware, c'était le New Jersey. Voilà. On en parle dans le bouquin, comment c'est passé de l'un à l'autre. Et donc, voilà, une manière de... En gros, ça illustre la capacité des multinationales. Donc, moi, je suis pas du tout juriste. Mais ce qu'on voit, c'est que, au fond, depuis toujours, depuis le 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, de différentes manières, ils utilisent des outils juridiques qui n'étaient pas faits forcément pour les multinationales, mais ils les utilisent pour servir leurs intérêts. Effectivement, ils se sont appropriés quelque chose qui, tu me l'apprends, datait des croisades et qui avait un objectif probablement assez différent à l'époque que de détenir des actions de construire un monopole pétrolier.
Je t'envoie le lien.
Ils s'approprient ça et ça, on l'a vu, enfin, on le voit à nombreuses reprises dans l'histoire. Et d'ailleurs, même le concept de personne morale, c'est plutôt. Donc, le fait de donner une personnalité juridique aux entreprises qui est une notion très importante, notamment aux États-Unis, ça vient du droit religieux. Donc, c'est les églises qui avaient une personnalité morale à la base.
Tout à fait. Chaîne de valeur, c'est page 27 du livre. Si tu veux jeter un coup d'œil.
Ouais, Yvan.
Chaîne de valeur, en gros, c'est comment tout un circuit économique va construire, à partir de matières premières ou de produits de base, va construire la valeur autour de ce produit qui va revendre au final sur les marchés et du coup dégager une plus-value. Une chaîne de valeur qui va s'internationaliser, c'est d'où le terme multinational, parce que en termes de qui va se complexifier avec des filiales, des sous-filiales, des sous-filiales, des prestataires, des sous-traitants, des sous-traitants de prestataires, etc. Avec voilà, et du coup et pour aller chercher l'espace de production le moins coûteux possible en termes de conditions de travail, de salaire, de rémunération, de respect des droits ou de régulation environnementale et autres, ou juridique, et voilà, pour essayer d'avoir un produit le moins cher possible en termes de fabrication pour dégager le plus de valeur possible au fil de sa chaîne soit de transport, soit de transformation. Pour la revendre sur les marchés et dégager une plus-value importante.
Voilà. Alors, société anonyme par action.
Alors ça, c'est un point important qui est une des raisons.
Oui.
Donc, on en profite pour aborder un peu, commencer à rentrer dans le livre.
Oui.
Donc, on commence, j'ai dit, en 1850. Pourquoi 1850? Parce qu'il nous semble que, bon, ensuite, on aurait pu prendre 1840 ou 1830.
Mais c'est un parti pris qui est très bien expliqué.
Mais il y a deux, en gros, grosso modo, vers cette date, il y a deux grandes mutations importantes qui un peu créent la multinationale moderne. Parce qu'avant, il y a ce qu'on pourrait appeler à la limite des multinationales prémodernes, comme les grandes compagnies coloniales, etc., la Compagnie britannique des Indes. Mais il y a deux choses qui changent. La première, c'est d'un point de vue purement économique et technique, matériel. Il y a une révolution dans le domaine de la communication et des transports. Donc à l'époque, c'est le transport bateau en vapeur, les grands câbles télégraphiques sous-marins qui permettent de transférer l'information quasi instantanément d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Donc évidemment, on est encore très loin des câbles de données d'aujourd'hui qui sont contrôlés par les GAFAM, où ça va encore plus vite et de manière plus massive. Mais voilà, on crée un marché mondial, on commence à avoir l'envergure mondiale, et c'est ce qui permet à une multinationale d'externaliser sa chaîne de valeur, de faire produire, de délocaliser, d'exporter, de récupérer ses matières premières à l'autre bout du monde, parce qu'ils savent qu'en Amérique, c'est moins cher qu'en Russie, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est symbolisé par les grands canaux, comme le canal de Suez. On parle de Lafarge et du rôle de Lafarge dans le canal de Suez, le câble télégraphique sous-marin, donc deux articles du livre. Et l'autre innovation, j'en arrive enfin, c'est une innovation plutôt juridique, et c'est pareil, c'est au même moment, et c'est cette création de cette société anonyme par action. Donc en partie, ça existait déjà, mais seulement pour justement les grandes compagnies coloniales qui étaient directement liées à l'État, donc c'était pas pour n'importe qui. À partir de ce moment, on libéralise, c'est-à-dire on laisse la possibilité à n'importe qui de créer une société par action et de faire appel à l'épargne du public via la bourse. Et à l'époque, c'est justifié par les besoins de l'industrialisation. On a besoin de capitaux pour construire des chemins de fer, des infrastructures, etc. Donc on fait appel aux épargnants. Et donc tous les gouvernements qui veulent s'industrialiser disent « bon, on va ouvrir les vannes, on va laisser n'importe qui créer des entreprises ». Et donc on crée cette nouvelle forme juridique, c'est le premier acteur juridique autonome depuis l'époque des églises, quoi, depuis longtemps. alors qu'auparavant c'était contrôlé par les États. Donc on crée une nouvelle forme de souveraineté dont un des contributeurs, un des accompagnateurs du livre, Alain Denon, a beaucoup parlé de cette souveraineté des multinationales. Oh, oui. Mais les premières bases de cette extra-souveraineté, ça vient de là.
Oui.
Et apparaissent dès le début les premiers... donc là encore, on voit des choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Les problématiques, voilà la responsabilité des actionnaires. Pourquoi on a ces sociétés anonymes, ça veut dire... que quand il y a des abus d'entreprise, il y a des violations, les actionnaires ne sont pas responsables, donc c'est ça la société anonyme.
Tout à fait.
Donc voilà, des abus financiers, des actionnaires qui s'accaparent les profits sous la forme de dividendes, qui payent mal leurs ouvriers, tout ça c'est lié à la forme juridique de la société anonyme par action, donc c'est pour ça que ça nous paraît, voilà. Le deuxième point de départ, il y a vraiment un double point de départ pour les multinationales, à la fois économique, mais aussi juridique et politique.
Oui, et puis il y a juste pour compléter rapidement, il y a le concept de voilà de liberté d'entreprise qui se répand, ou effectivement qui autonomise totalement l'activité économique par rapport à un lien de ce même formel, même distant, mais qui existait encore entre l'État et les activités économiques. Et puis dans la foulée des sociétés par action, il y a les sociétés par action à responsabilité limitée, où les actionnaires ne sont responsables que à hauteur de leur investissement. C'est-à-dire que s'ils investissent dans un méga site industriel qui va subir un accident et qui va produire une méga pollution avec des dommages très graves, ils ne peuvent être jugés responsables que à hauteur de leur investissement et pas au-delà. Donc c'est une sorte voilà, de j'engrange les bénéfices, mais je ne suis responsable que de manière très limitée de ce qui peut arriver ensuite.
C'est l'irresponsabilité sur tous les plans. Voilà. Alors, mais justement, on en vient au terme de multinational. Pourquoi avoir choisi multinational et non pas groupe ou cartel? Vous l'expliquez très bien dans le livre.
Oui, bon, on explique, c'est vrai que bon, le terme multinational, on l'a choisi parce que c'est quand même le terme consacré.
Oui.
Et ça dit bien la réalité que Yvan a décrite. Une multinationale aujourd'hui, essentiellement, c'est une entreprise qui s'organise à l'échelle mondiale, qui échappe aux frontières. Donc c'est vraiment cette notion d'échapper aux frontières administratives, fiscales, financières, qui est structurelle à la fois... pour revenir sur ce que je viens de dire juste avant, à la fois du point de vue matériel, donc elles sont capables d'externaliser, d'envoyer des choses au bout du monde, et du point de vue juridique, elles peuvent aussi échapper aux frontières. Donc c'est pour ça. Et ensuite, il y a le côté paradoxal que le terme même de multinationale, en fait, il apparaît vraiment plutôt dans les années 1970. Avant, on ne parlait pas de multinationale, on parlait de trust ou d'autres choses. Mais la réalité multinationale nous semble, pour les raisons que j'ai dites, exister bien avant les années 70. Mais les multinationales comme objet politique, ça vient vraiment sur le devant de la scène dans les années 70, parce que un contexte avec une convergence de facteurs. Donc il y a évidemment le mouvement de décolonisation et l'affirmation des pays de ce qu'on appelait alors le tiers-monde, sur justement une affirmation de souveraineté par rapport aux intérêts occidentaux. Donc à la fois en Afrique avec des nationalisations dans le Moyen-Orient, mais aussi en Amérique du Sud, avec notamment la figure de Salvador Allende au Chili, qui est connu pour avoir fait un grand discours justement sur le pouvoir des multinationales en 1972 l'Assemblée générale des Nations Unies, quelques mois avant d'être renversé par un coup d'État, entre autres aidé par une multinationale, AT&T.
Voilà.
Donc il y avait aussi, mais aussi les travailleurs qui commençaient, c'était le début des délocalisations, pardon. Donc ils commençaient à s'inquiéter justement du -10 ans salarial au fur et à mesure que les multinationales s'étendaient. Et bon, les ONG qui se préoccupaient des questions environnementales qui émergent à ce moment-là, des impacts en termes de droits humains, etc. Donc voilà, je m'étends là-dessus, mais c'est vraiment à ce moment-là que le terme multinational arrive sur le devant de la scène comme problème, en tant que multinationale, le fait qu'elle soit multinationale. Mais la question de la puissance de ces grandes entreprises, elle était posée sous différentes formes avant.
Oui, puis je pense que le terme multinational, ça induit l'agilité de ces groupes. Parce que quand on parle de grands groupes ou de grandes entreprises qui peuvent avoir des ramifications internationales, voilà, on a l'image d'un groupe quand même verticalisé, qui va se mouvoir dans un contexte international, mais de manière, qui va être prise par des contraintes. Multinational, c'est vraiment, on a envie de transférer une filiale là, on la transfère, on veut changer le siège social parce que cet État nous plaît plus en termes de règles, c'est trop contraignant, etc. Donc on va s'installer ailleurs. Cette espèce de fluidité, d'agilité dans la réorganisation immédiate des choses, ou de circulation des capitaux, des actions, de faire remonter les bénéfices à tel endroit pour être moins taxé ailleurs, qui est pas forcément implicite dans l'emploi des autres d'entreprises transnationales ou de grands groupes.
D'accord. Alors, 5 parties, avec chacune son introduction. Des multinationales, qui obéissent à un plan. Chaque multinationale obéit au plan suivant. Comment connaît-on vraiment les multinationales? Point d'interrogation. Quand sont-elles apparues? Et comment sont-elles devenues si puissantes? Et chaque article, notice sur les multinationales, explique ceci en très peu, en quelques pages. J'ai tout faux?
Bah c'est un peu c'est le propos du livre dans son ensemble. Ensuite chaque chapitre y répond d'une certaine manière, mais c'est pas aussi schématique. Tu donnes l'impression que chaque article est structuré exactement de la même manière. Mais le propos d'ensemble c'est celui-là. Oui, c'est clair. Et on a essayé de, donc c'est un livre très grand, tu l'as dit. On a essayé de couvrir à la fois tous les zones géographiques, tous les secteurs. Donc Mais effectivement, le mouvement d'ensemble, c'est ça, c'est comment elles sont devenues aussi puissantes.
Et l'idée, c'est au fil des dates, de 1850 à maintenant,
2025,
d'incarner ce que font et concrètement et l'influence et le pouvoir que représentent ces entreprises. Donc l'idée, c'est de... Enfin, on a tous en tête les grands événements historiques qui se déroulent du 19e au 20e siècle et au début du 21e siècle. Et l'idée, c'est de montrer, du point de vue du rôle des multinationales, comment elles vont se comporter face à tel événement historique, comment elles vont éventuellement influer l'évolution aussi des sociétés, des sociétés de consommation, etc., et des lois, et d'incarner à chaque fois par une histoire... soit d'une entreprise particulière, soit d'un secteur avec plusieurs entreprises, et qui va se dérouler au fil du livre, comme ça.
Bon.
Disons, pour ajouter, le livre, il est sur les multinationales telles qu'on les connaît, donc on trouvera pas mal d'infos sur d'où vient Nestlé, d'où vient Google, d'où vient Total, Énergie, ou Total...
Singer, etc. Qui est la première multinationale, ça je l'ignorais.
Ouais, bon, c'est ce qu'on dit, ouais. Mais c'est aussi un livre sur les multinationales comme collective, comme ce nouvel acteur historique qui en fait s'est introduit petit à petit à la... D'un certain côté, c'est construit comme une puissance souveraine, comme dirait Alain Deneau, qui s'est toujours battu pour échapper aux limites, aux contraintes administratives, résister aux critiques, etc. Et qui petit à petit aussi, c'est ce que raconte ce livre d'une certaine manière, a pénétré des différents champs de notre vie petit à petit. Parce que toutes les multinationales, elles ne sont pas arrivées en même temps. Au début, c'était dans la grande industrie, la chimie. Ensuite, il y a eu l'automobile. Et ensuite, il y a eu l'agroalimentaire, la grande distribution. Et aujourd'hui, voilà, il y a la biotech, le numérique. Et petit à petit, elles ont occupé tout l'espace de nos vies, au-delà de l'économie, de nos vies, quoi. Et donc, c'est aussi ce que raconte ce livre, quoi.
Et de montrer sur... Parce que si elles sont arrivées à acquérir le pouvoir qu'elles ont aujourd'hui, c'est pas seulement du fait de manipulation ou d'abus, c'est à un moment donné, elles ont réussi à répondre à des besoins, ou à les créer aussi parfois, à massifier certaines révolutions techniques, que ce soit pour produire de manière... plus rapide et plus efficace et moins coûteuse des choses, ou de concevoir des nouveaux biens de consommation, ou aussi de développer les premiers pas du marketing, du design, de la publicité, etc. L'idée, c'est de raconter tout ça, c'est que leur pouvoir ne vient pas de nulle part, c'est qu'à un moment donné, elles ont répondu à des attentes, que ce soit chez les consommateurs ou pour réaliser des infrastructures. Voilà.
Est-ce que vous réalisez que vous leur portez un coup fatal parce que vous permettez de les connaître, donc de donner à voir leurs failles, leur histoire, donc leurs failles, et qu'on pourra mieux les combattre parce qu'on les connaît mieux. Il faut d'abord connaître son adversaire avant de le combattre.
C'est un peu l'idée du livre. Ouais. Effectivement, les multinationales, elles n'aiment pas qu'on raconte leur histoire.
Oui, elles ont une histoire.
Elles aiment bien raconter, plutôt quand elles parlent de leur histoire, c'est plutôt sur le mode du conte de fées. Elles ont été créées par un inventeur génial un jour... qui est naturellement a conquis le monde, etc. Nous, on raconte la vraie histoire, et la vraie histoire, oui, c'est aussi une histoire de sang, d'abus, d'exploitation, etc.
Les arrière-cuisines ne sont pas
si reluisantes, oui.
Voilà. Patrick, tu voulais dire
quelque chose ? Oui, je note un paradoxe, en fait. Alors, vous commencez en disant que la plupart des gens ne sont sans doute pas capables de nommer des oiseaux ou des arbres, parce que je me pose la question, comme j'en connais, et vous mentionnez 100 marques. Je dis, ouais, je pense que j'arrive plutôt à trouver 100 marques, 100 oiseaux. Et en même temps, je regarde le bouquin, il y a plein de noms que je connais pas. Donc je me dis, c'est fascinant. Il y en a qui sont très visibles, parce que c'est aussi leur modèle économique. Et il y en a d'autres qui sont derrière, sans doute d'empires, et qu'on ne connaît pas. Donc à la fois de, une forme de paradoxe ou contradiction de celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Et on, peut-être que celles qu'on ne voit pas, elles font encore peut-être plus peur que celles qu'on voit, je ne sais pas.
Non, c'est clair. Bah, on peut donner l'exemple, par exemple, des grandes entreprises de négoce dont tu as eu l'occasion de parler, je pense, dans cette émission.
Oui, on va en parler.
Personne ne les connaît. Elles sont basées en Suisse. Il y a tout un chapitre
par
Agathe Duparc et Adrien Budry-Carbo.
Et Agathe Duparc.
Oui. Et donc voilà, c'est en fait eux leur job, c'est ils font, c'est de ils sont négociants, donc ils négocient les matières premières, donc ils contrôlent, je sais plus les chiffres exacts, mais 75% du blé, 60%, c'est pas les chiffres exacts, donc vous vérifierez dans le livre.
Oui.
50% du riz, pareil pour une bonne partie du pétrole et une bonne partie des métaux, ça passe par eux. Quand il y a des situations de crise, là on parle, ce chapitre parlant en particulier de la guerre en Ukraine. Et qu'il y a des tensions sur les prix, ils en profitent à fond, ils ont les moyens justement de jouer sur la hausse des prix. Et voilà, personne ne les connaît, mais voilà, c'est eux qui font que en Égypte, tout à coup, le prix de la farine ou du pain, ça monte en flèche, quoi.
Tout à fait.
Ouais, et puis tout dépend de l'activité économique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont directement des marques, enfin Coca-Cola par exemple, et qui vont être McDonald's, qui vont être directement au contact des consommateurs. Les consommateurs vont connaître, y compris quand vous allez chez votre banque, la Société Générale, BNP Paribas, etc. Vous connaissez. Les marques automobiles, c'est pareil. Et après, il y a différents niveaux d'activité. Peut-être les géants du BTP sont peut-être un peu moins connus, parce qu'on a moins directement affaire à eux, même si certains sont très connus. Et puis surtout, il y a aussi plus récemment l'émergence de grandes multinationales du Sud. Enfin, je pense à Olam, notamment,
oui,
une grosse entreprise qui s'est créée au Nigeria, qui est maintenant basée à Singapour, qui a été créée par un Nigérian qui est basé à Singapour.
Qui est basé à Singapour dès le départ.
Et qui produit, et que personne, que 99,9% des gens ne connaissent pas, et qui est un des géants de producteurs, notamment d'huile de palme, et donc qui contribue à ce titre à la déforestation en Indonésie notamment. Et voilà, donc ça, on tente de mettre en lumière aussi ce type de grandes entreprises qui sont pas forcément discrètes par choix, mais qui, parce que leurs produits ne concernent pas, enfin c'est comme le cas de Bolloré, s'il n'avait pas acheté des médias
tant qu'il était en Afrique
récemment,
il n'était pas
très connu, qui connaît, aucun consommateur n'a affaire directement à Bolloré Logistique par exemple, à tout son empire côté logistique, donc voilà, on ne savait pas trop d'où, comment il faisait ses affaires, sa fortune, et voilà, c'est vraiment les marques, et après certains grands groupes disparaissent aussi derrière leurs marques, je pense à Unilever, oui, qu'on connaît comme ça de loin, mais qui maintenant qui est plus représenté par toutes les marques de produits nettoyants ou de produits agroalimentaires qui vont être diffusés dans les supermarchés, mais qui en tant qu'Unilever est très peu connu en fait.
Alors Patrick, tu as une dernière non ?
Pas tout de suite, j'ai une question pour plus tard, je pense.
Parfait. Et bien, dans ce cas, nous allons faire une pause. Jean-Michel, s'il te plaît, merci.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
siren from the docks. The train set the night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Alors, Yvan, tu peux donner le titre de la musique, puisque c'est toi qui l'as choisi.
C'est un morceau du groupe The Pogues, Dirty Old Town, qui raconte rapidement cette image de ville très industrielle britannique ou en Irlande, marquée par la production sidérurgique, la production énergétique, et puis salie du coup par l'activité des grandes entreprises, enfin de ces entreprises industrielles-là.
Mais on va prendre comme exemple une entreprise qui s'allie, Krupp. J'ai oublié la page. Krupp.
Ah, je ne sais pas les pages par cœur. Quand même pas. Mais donc c'est dans la première partie du livre.
Oui, c'est la première
1871,
partie.
1871, par contre.
Tout à fait.
C'est la date.
Ouais. Alors...
Les fameux canons Krupp.
Oui.
Page 93.
Voilà.
Et suivante.
D'accord. Alors, Krupp, qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
Krupp, c'est une première multinationale, une des premières à la fin du 19e siècle, c'était une des plus grosses entreprises du monde. Parce qu'à l'époque, les Américains n'étaient pas encore trop gros. Ils sont devenus très gros vraiment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc les plus grosses multinationales dans cette première période, c'était des multinationales européennes, françaises, britanniques et allemandes notamment. Et belges aussi, parce que c'est à l'époque la Belgique, c'était aussi à l'avancée de la révolution industrielle, où il y avait pas mal de multinationales qui étaient basées là-bas. Et donc Krupp, c'est donc la sidérurgie, donc... Deux produits phares, disons. La sidérurgie pour les chemins de fer. Donc voilà, le succès de Krupp, c'est les chemins de fer, les rails, les roues de locomotive. Et la deuxième production, c'est les armements. Et donc Krupp est resté notamment, dans ce contexte du 19e siècle, célèbre pour ses canons Krupp qui ont... Et donc le rival français de Krupp, c'était Schneider, ou Schneider, paraît-il, qu'on dit localement. Et donc voilà, et une des raisons pour lesquelles... Et ça montre, ça illustre un peu cet effet de circulation entre l'histoire qu'on connaît et celle qu'on connaît pas. On connaît la guerre de 1871, la défaite de la France face à la Prusse. Mais une des raisons de cette défaite, apparemment, c'était que les canons Schneider n'étaient pas aussi bien que les canons Krupp.
Tout à fait.
Et donc, du coup, suite à cette défaite, le gouvernement français a dit à Schneider, bon, il faut quand même mettre de l'ordre dans vos affaires, on veut des bons canons. Et donc, a commencé une course aux armements, en gros, il y avait Krupp en Allemagne, il y avait Schneider en France, et il y avait un Britannique qui s'appelle Vickers, qui ont commencé à essayer de vendre leurs armements partout dans le monde, et ça a donné, au final, la Première Guerre mondiale. Une des raisons, bien sûr,
de la Première Guerre mondiale.
Aujourd'hui, et ça illustre bien des choses, on a parlé un peu des multinationales qu'on connaît pas, bah, une partie, si on les connaît pas, c'est qu'elles ont disparu. Et effectivement, l'arc narratif du livre, c'est là, sur le secteur sidérurgique. On parle de l'envolée de cette sidérurgie en Europe, Krupp, Schneider, etc. Mais voilà, c'est un secteur sinistré qui a détruit des milliers d'emplois et qui a été repris par des Indiens. Donc c'est un chapitre beaucoup plus tard dans le livre. Arcelor et Tata, pour le côté...
Voilà, parce que les deux derniers groupes sidérurgiques qu'on peut encore considérer au moins un petit peu comme européen, c'est ArcelorMittal, qui a encore son siège au Luxembourg, et ThyssenKrupp, donc il y a la fusion de Krupp et de son concurrent allemand Thyssen, et qui ont dû... Voilà, et qui incarnent la souffrance de la sidérurgie et du monde ouvrier lié à la sidérurgie en Europe, qui a vu son champ d'action et d'activité se réduire depuis 50 ans et à portion qu'on voit aujourd'hui.
Alors, il y a aussi autre chose qui caractérise Krupp, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre des camps par un des héritiers du fondateur.
Tout à fait, on en parle dans le livre à propos de Krupp et d'autres entreprises allemandes. Donc, effectivement, une partie des grandes entreprises allemandes qui sont réunies en cartel. Donc, voilà, tous les entreprises d'acier allemandes se sont mises ensemble, toutes les entreprises de la chimie allemandes se sont mises ensemble. Ça fait IG Farben, ce fameux conglomérat. Et donc, on d'une part, soutenu pour partie dans les années 30, au début des années 30, Hitler. Et ensuite, on participait activement
au pillage des territoires occupés
et à l'extermination. Et donc,
Guy Farben, notamment.
Voilà, Guy Farben, mais aussi Krupp. Donc, à l'époque, au tribunal de Nuremberg, il n'y a pas eu de mise en cause des entreprises en tant que telles. C'était leurs dirigeants. Mais il y a eu deux procès ciblés spécifiquement contre des dirigeants de groupe. Donc, un qui ciblait IG Farben et donc et ses héritiers, donc Bayer, BASF, etc. Et l'autre qui ciblait Krupp, qui effectivement, un des descendants du fondateur Krupp, était un nazi avéré.
Convaincu.
Et est-ce qu'on sait moins, et ce qui montre tout le cynisme de l'histoire, c'est que Auschwitz, non seulement est le nom donné au complexe de camps d'extermination et de concentration en Pologne, mais c'était aussi le nom d'une filiale de IG Farben, qui avait d'abord installé un camp de travail initial pour exploiter de la main-d'œuvre, pour le coup quasiment esclavagisée, enfin travail forcé, pour sa production. Et c'est à partir de cette filiale à Auschwitz que le camp d'extermination s'est créé.
Alors IG Farben, fabricant du zyklon B, qu'on utilisait dans les chambres à gaz.
Aussi.
Voilà. Donc, la boucle est bouclée. 1872, on va prendre une autre multinationale, Rockefeller. Yvan.
Bah vas-y, puisque tu as travaillé sur les lois antitrust aux États-Unis.
Voilà, justement.
Plus compétent que moi sur ça.
Ouais, donc voilà, on en a dit un mot à propos des trusts, effectivement.
Oui, justement.
C'est l'époque, donc aux États-Unis, c'est l'époque où les États-Unis sont peuplés et des afflux massifs
de population
des quatre coins du monde, notamment d'Europe, mais pas seulement. Et donc des besoins industriels énormes. Et
un entrepreneur sans foi ni loi.
Voilà. Et à côté, effectivement, c'est une époque de ce qu'on appelle les barons voleurs. Donc, c'est des grands industriels sans scrupules qui font fortune en profitant de la guerre, notamment de guerre de sécession. C'est un grand moment d'enrichissement. Et en s'octroyant des monopoles par des moyens plus ou moins avouables, souvent peu avouables. Et l'une des figures, donc il y en a plusieurs.
Oui, il y a Vanderbilt.
Vanderbilt, Jay Gould, etc.
Carnegie,
effectivement. Mais bon, un de ceux qu'on a retenu parce qu'il a été l'homme le plus riche du monde, c'est effectivement John D. Rockefeller, qui lui a construit son monopole dans le pétrole, qui était donc l'industrie naissante à cette époque, 1870, c'était vraiment le tout début. Et parce qu'il contrôlait quoi ? Parce qu'il savait stratégiquement le transport du pétrole. Donc il a fait en sorte de contrôler les chemins de fer qui transportaient le pétrole. Il a imposé ses prix à la concurrence et il a fait en sorte, voilà, il contrôlait 75% des raffineries de tous les États-Unis, 75% de...
Dans sa compagnie, la Standard Oil.
Voilà, il a créé cette compagnie, la Standard Oil, qui avait du pétrole, mais aussi du transport. Donc il y a un livre de Jean-Baptiste Fressot sur la transition énergétique qui explique que la Standard Oil, c'était aussi plein de plantations de bois et de charbon, parce qu'il y avait besoin de charbon et de bois, le bois pour faire les barils de pétrole, le charbon pour faire tourner les chemins de fer, etc. Donc c'était vraiment un empire énorme. Il avait des mines de charbon, d'ailleurs, il y a eu un massacre d'ouvriers dans une mine de charbon qui intervient plus tard, qui est resté célèbre, qui appartenait à Rockefeller aussi. Et voilà, il a construit ce monopole qui était vraiment à un moment la plus grosse entreprise pétrolière du monde. À l'époque, le pétrole n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, donc on peut pas dire que c'était mon plus important groupe dont on vient de parler, mais c'était vraiment le symbole du trust, du monopole. Donc il avait un quasi monopole sur le pétrole. Et donc du coup, quand il y a eu au début des années, à partir de la fin du 19e siècle, pardon, et au début du 20e siècle, un mouvement anti-monopole aux États-Unis qui était animé en partie par tous les gens qui devaient justement subir les prix imposés par ces monopoles, mais qui a eu des débouchés politiques. Et ça a été une des premières cibles, et effectivement...
Il a été démantelé.
Démantelé en 1911 par la Cour suprême des États-Unis.
Mais comme il avait gardé ses actions...
Voilà, ça a été scindé en 36 sociétés... sur une base régionale, donc il y avait Standard Oil de New York, Standard Oil de New Jersey, Standard Oil de Ohio, etc., etc., qui sont devenus des entreprises pétrolières qu'on connaît encore, genre Exxon, Mobil, etc.
Chevron.
Et qui ensuite, l'ironie de l'histoire, c'est que Exxon et Mobil, qui étaient les deux principales héritières de la Standard Oil, ont refusionné dans les années 1990. Et en plus de ça, effectivement, ils ont scindé les entreprises. Mais ils n'ont pas dépossédé Rockefeller, donc voilà. Et c'est comme ça que Rockefeller est devenu l'homme le plus riche du monde, et ensuite s'est lancé avec cette fortune, comme beaucoup de ces fameux barons voleurs à la fin de leur vie, dans les œuvres caritatives, créé cette fameuse fondation Rockefeller, qui a financé notamment la Révolution verte dans les années 50 et 60, entre autres.
Voilà. Alors, on va prendre une autre multinationale, celle de Thomas Edison. Ça me permet de parler de Nikola Tesla.
Thomas Edison, effectivement, donc c'était un inventeur bien connu qui est actif dans différents domaines, et qui effectivement notamment l'électricité. Mm-hmm. Et il est resté associé à une entreprise qui était Edison Electric, qui est devenue très rapidement une entreprise qu'on connaît encore aujourd'hui, qui s'appelle General Electric.
Je pense que tous les salariés d'Alstom s'en rappellent.
Tout à fait. Mais ce qui illustre cette histoire, en fait, c'est que donc beaucoup de multinationales sont construites un peu sur ce mythe de l'inventeur génial. C'est grâce à ces inventions géniales qu'elles sont devenues aussi riches. En fait, dès le début, et c'est ce que montre l'histoire de Edison, c'est ce que montre aussi l'histoire dont on parle dans le bouquin de Alexander Graham Bell, qui a donc inventé, parmi d'autres, enfin, revendique l'invention du téléphone, d'un savant allemand qui s'appelle Liebig, Justus von Liebig, qui a inventé le bouillon, machin. Donc tous ces gens, en fait, ils étaient sûrement très bons, mais ils avaient dès le début avec eux des avocats, des financiers qui les finançaient. Et ils n'auraient pas créé leur entreprise sans les financiers. Et très tôt, Thomas Edison, il n'avait pas le contrôle de son entreprise. Donc en fait, c'est eux qui lui ont permis justement d'avoir les brevets, de mener les batailles en justice pour imposer leurs revendications de paternité, leur invention contre les autres. Et ensuite, du fait, ils ont eu un monopole grâce à ce brevet et ils ont pu s'étendre partout. Et le nom d'Edison, en fait, il a été utilisé à des fins publicitaires, etc. Et le seul parmi tous ceux-là, tous ces inventeurs de cette époque qui n'avait pas eu assez d'amis pour lancer son empire,
c'est Nikola Tesla.
Et manque de bol, 100 ans plus tard, il s'est trouvé un Elon Musk qui s'est dit « je vais utiliser son nom pour créer mon empire pourri ». Mais voilà, le seul justement, le contraste est frappant entre Nikola Tesla qui n'était pas aidé, donc qui a
été licencié en 1884
voilà,
par Edison.
Qui a fini dans la misère alors qu'il avait raison, notamment.
Avait raison et son invention a été validée par tout le monde.
Voilà, donc lui en fait... Pour rappeler, Thomas Edison, il pensait que le mieux, c'était de miser sur le courant continu. Et Tesla, très tôt, il a dit, pour les grands réseaux électriques, qu'il fallait le courant alternatif, qui est, voilà. Reste la solution privilégiée aujourd'hui. Tesla avait raison, mais c'est quand même Edison qui a fondé General Electric. En tout cas, c'est les alliés d'Edison qui ont fondé General Electric.
Bon. Alors, on va prendre une banque, JP Morgan. Et pas n'importe quelle banque.
C'est pas n'importe quelle banque, donc on reste un peu dans ce domaine américain. Effectivement, c'est un financier. Donc, pareil, il a fait fortune en partie grâce à la guerre de sécession. Et lui, sa spécialité, c'est vraiment... Donc, il a fondé sa banque qui existe encore aujourd'hui. Qui a été scindée en deux à un moment pendant le New Deal. Donc, il y a JP Morgan Chase aujourd'hui et Morgan Stanley. Mais bon, bref, à l'époque, il n'y en avait qu'une. Et en gros, il a orchestré la création de ces monopoles dont je parle. Donc, il a aidé à créer General Electric, il a aidé à créer U.S. Steel, donc c'est un monopole de l'acier en rachetant Carnegie, plein d'autres monopoles. Donc voilà, ça illustre la puissance de Wall Street à cette époque et qui continue encore aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parle des banquiers à la française, les frères Pereire.
Ouais, donc ça c'est un autre...
C'est un boulevard, c'est une station de métro. Mais peu de gens savent que ce sont des banquiers bien français.
Voilà, bah ça,
qui ont fait faillite en plus.
Les débuts de la banque, donc à l'époque, ils étaient un peu innovateurs, donc c'est l'époque du Troisième Empire en France.
Oui.
Du Second Empire, pardon.
Qu'est-ce que je Second Empire, oui.
C'était Napoléon III, mais le Second Empire.
Oui.
Il n'y a pas eu le Troisième Empire.
Ouais. Non, il n'y en a pas eu. D'où le... Pardon.
Et donc voilà, c'était une époque un peu connue justement pour Napoléon III. Déjà, il y avait une sorte de clique... Enfin, des hommes d'affaires qui étaient à la fois députés, sénateurs, qui avaient des positions et vice-versa. Donc, un peu cette logique oligarchique qu'on dénonce encore aujourd'hui. Et je vais y revenir, il y a beaucoup de continuité entre cette époque et maintenant. Et effectivement, parmi les figures de cette époque, il y avait les frères Pereyrer qui ont créé donc leur invention, c'est de créer des banques qui font appel à l'épargne des classes moyennes et pas seulement des gens riches. Donc, avant, il y avait la banque d'affaires type les Rothschild qui existait bien avant, qui est vraiment... utiliser l'argent des gens riches, eux, ils ont fait appel à l'épargne des classes moyennes, disons, pour financer des entreprises industrielles, donc chemin de fer, etc. Et donc, par ce biais, ils ont construit un empire en France, en tout cas, mais pas seulement en France, parce qu'à l'époque, il y avait aussi une projection précoloniale, donc dans tout le pourtour méditerranéen, il y avait beaucoup de capitaux français, ils étaient très présents. Et donc, ils avaient des actions dans des sociétés de chemin de fer, de tramway, de canaux, immobilières. Donc, ils ont beaucoup participé aux travaux de haussmanniens, donc la destruction du vieux Paris, la construction de nouveaux quartiers. Et effectivement, et tout ça soutenu à bras le corps par l'État très tolérant avec leur monnaie un peu spéculative, les risques qu'ils prenaient, jusqu'à ce que l'État décide peut-être parce qu'il y avait ils avaient évidemment des rivalités avec d'autres banques, peut-être parce que leur clan a perdu, donc l'État en 1866 a décidé de couper les fonds, donc ils ont fait faillite, mais ils ont constitué un empire et ensuite il y a d'autres banques qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, la Société Générale, les ancêtres de BNP Paribas. Le Crédit Lyonnais, qui sont créés dans la foulée, qui ont appliqué exactement le même modèle, voire ont été plus loin dans l'appel à l'épargne et des petits épargnants, notamment le Crédit Lyonnais, et qui ont pris des et qui à l'époque et toujours aujourd'hui, dans une certaine mesure, contrôlaient beaucoup d'entreprises industrielles, d'immobilier, etc. Et à cette époque, pour revenir un peu sur ces continuités, ça c'est un truc frappant pour moi, parce que comme on l'a dit au début, moi, mon métier à la base, c'est d'être journaliste sur les multinationales d'aujourd'hui. Et une des choses que j'ai eu l'occasion de faire, parce que je travaillais pas mal sur le CAC 40, c'est de regarder qui est dans les conseils d'administration du CAC 40 et montrer que c'est une consanguinité, que on retrouve les mêmes personnes ou les gens des mêmes entreprises dans toutes les conseils d'administration des autres,
etc. Des participations croisées.
Et en faisant ce livre, j'ai découvert qu'il y avait un militant journaliste dont j'ai oublié le nom, mais c'était un ami d'Auguste Blanqui qui avait fait exactement le même boulot, mais à cette époque-là, et qui avait montré qu'on retrouvait les Pereyrer et leurs neveux, ou le nom m'échappe de l'autre banque, mais voilà, leurs rivaux dans les conseils d'administration de 30 sociétés industrielles à cette époque.
Et s'ils ont laissé une trace géographique dans l'Ouest parisien, parce que vous avez parlé de la gare, Pereyrer-Levallois et puis le boulevard, c'est parce qu'ils ont beaucoup investi dans ils ont financé la construction du chemin de fer dans de différentes dessertes et gares. Donc, il était privé à l'époque, et chemin de fer et gare, divisé en différentes compagnies dans l'Ouest parisien. Et c'est pour ça que, ils sont passés à la postérité là-bas.
On va parler d'un roi, Léopold II, et le Congo. Yvan.
Le Congo belge, qui a été à un moment donné, du coup, la seule colonie privée, enfin, qui appartenait à une personne, pour le coup, donc le roi Léopold II de Belgique. Au cours du 19e, deuxième partie du 19e siècle. Donc, c'est au moment de la répartition entre puissances coloniales qui se sont divisées, en tout cas l'Afrique, entre France, Royaume-Uni, Allemagne et la Belgique. Enfin, c'est pas la Belgique, c'est Léopold II qui avait financé des missions d'exploration avec Stanley, notamment pour explorer le fleuve Congo et différents territoires là-bas, qui du coup a réussi à s'approprier, à se faire reconnaître sa propriété privée immense.
4 fois la France,
immense.
Pendant 23 ans.
Et qui a, pour tenter de rentabiliser l'exploitation de son territoire, a fait venir différentes entreprises, et notamment... Unilever, donc fondée par les frères Lever, qui sont des Britanniques, qui sont partis pour le coup. Alors, là on a l'aspect rêve capitaliste de réussite, c'est-à-dire que c'est la famille Lever, c'est des familles de petits commerçants, des épiciers en banlieue de Manchester, il me semble, Bristol, je sais plus, donc un des frères va avoir une innovation, c'est-à-dire qu'avant on achetait le savon au poids, donc des gros morceaux de savon, et lui il va avoir l'idée de découper en petits morceaux déjà pré-pesés avec des emballages un petit peu travaillés, avec faire appel à des illustrateurs pour décorer les emballages, tout ça, et donc ça va bien marcher. Ils vont commencer à grossir, à ouvrir différentes manufactures, et à un moment donné ils vont avoir besoin de leur matière première pour fabriquer le savon et donc de l'huile de palme pour le coup, qu'ils vont aller trouver. Ils vont passer un accord avec Leopoldo, puis ensuite une fois que le Congo, Leopoldo va céder en fait sur le Congo à la Belgique, ils vont pouvoir s'implanter, on va leur octroyer d'immenses territoires où sont situées les plantations d'huile de palme, qui vont aller exploiter la main d'œuvre localement très mal payée dans des conditions de travail forcées. Et voilà. Et du coup, c'est une des raisons, le fait d'avoir accès à une matière première si peu chère qu'on peut ensuite exporter vers les ports britanniques pour alimenter les manufactures des frères Lever au Royaume-Uni, c'est ça qui va asseoir la puissance et qui de la future grande entreprise Unilever qui va grossir ensuite.
Bon, alors on a le IC, l'ancêtre des ONG, avec des gens comme Conan Doyle et Conrad qui vont justement dénoncer ce qui se passe au Congo et qui vont permettre que ça change très peu, mais.
Bah, c'est illustre effectivement que dès le début, à cette époque, il y a eu des journalistes, des écrivains.
Parce que ça fait 10 à 12 millions de victimes.
Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'inviter Fabien Lebrun qui a sorti un bouquin sur.
Non, mais ça fait partie de mes ambitions.
Donc il raconte un peu la continuité effectivement de ce territoire qui est aujourd'hui la RDC.
Alain Benoît a fait une excellente préface. Et on le voit à Publico, cet ouvrage, donc, Barbarie numérique.
Ouais, et donc, en gros, voilà, bon, pour faire simple, voilà, le territoire, et puis ça avait déjà été montré dans l'histoire du Congo de l'auteur dont le nom m'échappait, qui parlait il y a quelques années, désolé, qu'en fait, ce territoire, il est voué à l'exploitation des ressources naturelles sauvages, c'est un peu la zone, le ventre mou du capitalisme où tout le monde va pour exploiter, se gaver. Donc, au début, ça a été l'ivoire, ensuite, ça a été le caoutchouc avec l'invention du pneu, ensuite, ça a été l'huile de palme, mais ensuite les minerais, aujourd'hui les minerais critiques, et effectivement c'est une histoire de continuité. Et donc pour revenir à ta question, excuse-moi, au début du XXe siècle, effectivement on voit des écrivains, aussi des figures qu'on connaît un peu moins, comme une missionnaire qui a photographié justement les cadavres, donc voilà, un premier mouvement d'opinion internationale qui mobilisait, donc il y en avait déjà eu avant sur d'autres questions, notamment la lutte anti-esclavage, etc., mais un vrai mouvement d'opinion internationale avec des ancêtres d'ONG, des associations qui alertent, qui lâchent pas l'affaire et qui obtiennent une victoire, au moins en forçant Léopold à céder son territoire qui détenait en titre propre à la Belgique. Mais malheureusement, la suite de l'histoire montre que voilà, le territoire et ses habitants continuent à être exploités par d'autres.
Il y a dans la partie française aussi du Congo où c'est notamment Albert Londres et d'autres écrivains qui vont documenter et raconter ce qui se passe sur la ligne Congo-Océan, donc une ligne de chemin de fer construite par une entreprise qui existe encore aujourd'hui de BTP qui s'appelle Spi Batignolles.
Oui.
Et voilà, qui va provoquer des milliers dans des conditions de travail abominables. Et plusieurs, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes vont mourir sur plusieurs années. Et c'est Albert Londres, notamment, et d'autres qui vont documenter cette histoire qui va obliger l'entreprise et l'autorité coloniale à améliorer un petit peu les conditions de travail.
Alors, actuellement, il y a des plaintes contre Apple de la République démocratique du Congo dans le conflit actuellement en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'actualité des multinationales. Vous en parlez dans le livre, dans la cinquième partie, puisqu'on parle d'Apple.
Oui, non, c'est clair, effectivement, dans ces fameuses chaînes de valeur dont parlait Yvan au début, pour une entreprise comme Apple, il y a aussi beaucoup d'extraction minière. Donc, dans un iPhone, mais ça vaut pour toutes, et ça vaut aussi pour celles comme Meta ou autres qui n'ont pas les équipements, mais qui repose aussi sur la même utilisation d'équipements numériques ou de centres de données, etc. Donc à la base de ça, il y a des minerais, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a, dans un iPhone, il y a plusieurs dizaines de minerais qui sont extraits aux quatre coins du monde, et notamment pour certains composants critiques en RDC. Et donc c'est ce qu'on appelle voilà,
les minerais du sang.
Entre autres, les minerais de sang, effectivement, le coltan. Enfin voilà, il y en a plusieurs selon les besoins. Et puis, en fonction des besoins, justement, le livre de Fabien Lebrun montre bien que chaque nouvelle vague de besoins pour l'industrie numérique, c'est une nouvelle vague de violence
dans la RDC.
C'est ça qui est terrible pour la RDC, c'est qu'on voit sur 150 ans depuis le Congo belge, enfin, ou de Léopold, les frères Lever, l'ivoire et le caoutchouc jusqu'à aujourd'hui avec les terres rares.
Ça
n'a jamais arrêté, et que c'est un pays qui n'a jamais, ou dont la population n'a jamais profité, ne serait-ce qu'un tant soit peu, des ressources naturelles qui étaient extraites de son sol. Et c'est terrible. Ça
montre bien le rôle des multinationales. Et ça, vous le montrez bien dans le livre.
Et donc, effectivement, une multinationale, Apple, voilà, c'est pas elle qui extrait des minerais au RDC. Elle en achète à des gens qui eux-mêmes en ont acheté à des négociants, qui eux-mêmes en ont acheté à des gens qui minent, etc. Donc, la multinationale, elle contrôle totalement la chaîne de valeur, elle est responsable, parce que s'il mine au RDC, c'est parce qu'il y a des gens comme Apple qui achètent, évidemment. Mais juridiquement, elle est construite pour dire, bah non, c'est pas mon problème, c'est pas moi. Et donc, effectivement, c'est une lutte de plusieurs décennies, des militants, de gouvernements, de juristes, etc., pour que ces multinationales comme Apple puissent être rendues responsables devant des tribunaux de ce genre d'abus de droits humains. Et effectivement, cette plainte contre Apple, ça s'inscrit parmi beaucoup d'autres, ça s'inscrit dans ce processus d'essayer de rendre ces multinationales responsables.
Bien. Nous allons faire une pause et nous allons revenir sur trois multinationales avant d'attaquer le chapitre de ceux qui combattent et qui combattent depuis très longtemps, justement. Merci Jean-Michel.
Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. My daddy worked the furnace, kept him hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. They'll attack and I cook in limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble, he said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam, now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my
sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnaces of hell.
Merci Jean-Michel. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission sur Multinationales, une histoire du monde avec Yvon Leroy et Olivier Petitjean. Olivier, c'est toi qui as choisi cette musique, son titre.
Ouais, donc Youngstown de Bruce Springsteen. Ça raconte un peu comme l'autre chanson, la désindustrialisation. Donc c'est l'histoire de cette ville dans l'Ohio où il y avait des grandes usines sidérurgiques qui appartenaient, si je me trompe pas, à Bethlehem Steel. Mmh. Et qui ont servi des efforts de guerre, notamment, et ça raconte comment, voilà, ensuite tout le monde a été licencié dans les années 70-80. Et c'est un territoire qui aujourd'hui vote massivement pour Trump et où j'ai été en reportage il y a quelques années parce que un des espoirs de relance industrielle, c'était l'industrie du gaz de schiste. Donc il y avait pas mal de gaz de schiste et des entreprises françaises, dont Total et Vallourec, qui étaient présentes sur ce territoire.
Bon. Alors, pour parler des États-Unis, on va venir à 1919. Un conflit entre trois actionnaires, les frères Dodge contre Ford, le constructeur.
Ouais, donc c'est c'est le début de l'industrie automobile, donc à Détroit. Et effectivement, il y a Henry Ford, donc qui va devenir à un moment le plus grand constructeur automobile du monde, qui existe encore aujourd'hui. Pour se lancer, fait appel à des partenariats, dont notamment les frères Dodge, et ensuite il crée son modèle qui est, donc on connaît le Fordisme, donc il décide de produire massivement la Ford T pour pas cher. Il communique beaucoup sur le fait qu'il va payer ses salariés un peu plus que les concurrents pour les fidéliser parce qu'il y a un turnover énorme, les conditions sont terribles, etc. Il augmente leur salaire. Et à ce moment-là, donc les frères Dodge, les actionnaires, ils disent « Bon, mais pourquoi tu augmentes les salaires ? On préfère que ça vienne sous forme de dividendes parce qu'on a besoin de dividendes. » Il y a un conflit qui en fait est lié aussi au fait que les frères Dodge, ils voulaient lancer leur propre constructeur qu'ils ont lancé, d'où la marque Dodge ensuite qui a été rachetée par Chrysler. Donc il y a un conflit sur une question très actuelle, voilà, pourquoi tout l'argent, est-ce que tout l'argent, les profits devraient aller aux actionnaires ou plutôt aux salariés ou investir, ce que voulait en l'occurrence Henry Ford, qui était plutôt le gentil dans l'histoire, même si le personnage était horrible,
oui,
et terrible, et le Fordisme était horrible, mais là bon. En tout cas, cette procédure judiciaire, juridique, elle était sur le fait, est-ce que l'argent doit aller prioritairement aux actionnaires ou pas? Et donc les frères Dodge portent l'affaire devant la Cour suprême du Michigan, et la Cour suprême du Michigan dit oui, la responsabilité d'une entreprise, c'est de servir ses actionnaires et personne d'autre avant toute chose, quoi. Et donc voilà, c'est une décision qui a fondé cette idée de la primauté des actionnaires, qui est un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Quand une multinationale, un patron multinational, de temps en temps dit oui, ce qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus pour
les salariés,
etc. Il se fait sanctionner et voir, il peut
prendre la porte
au nom de cette primauté des actionnaires être poursuivi en justice. Donc c'est un débat très actuel effectivement.
Tout à fait. Alors deuxième multinationale qu'on va regarder, 1957, la City.
Donc c'est le début du marché qu'on appelle les euro-dollars.
Voilà.
Et c'est pourquoi c'est important, parce que en gros, faut bien se dire que, pour revenir un peu sur la manière dont le livre est construit, l'histoire qu'il raconte, c'est donc au 19e siècle, c'est une époque de libre-échange libre circulation des hommes à l'époque. On n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, mais à l'époque, circulation très facile. C'est de protéger pas les migrants du racisme et de la violence et de l'exploitation, mais
non,
au moins il y avait moins de policiers aux frontières. Donc des capitaux, donc marché libre. Ensuite, avec la Première Guerre mondiale, il y a eu des remises en cause de ça, on le raconte dans le livre. Et surtout, mais bon, on est continué sur cette base et ça menait notamment à la crise des années 30, aux États-Unis, dans le reste du monde. La Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une période où voilà, l'idéologie du marché libre, qui était associée à la domination de la City à Londres, voilà, a été remise en cause. On a mis en place des outils à la fois... au niveau national, le New Deal aux États-Unis, les nationalisations, l'État-providence en Europe, mais aussi des outils au niveau international. On respectait le droit des États à contrôler les capitaux, à taxer, à avoir une juste, en tout cas de certains États, une juste contrôle de leur économie, de leurs ressources naturelles. Et donc voilà. Et pendant un certain temps, on peut dire que pendant quelques décennies, ça a contenu l'expansion des multinationales. Donc à un moment, voilà, elles devaient faire, il y avait un contre-pouvoir qui les empêchait de devenir aussi grosses qu'elles voulaient, qui a limité un peu le commerce mondial. Et donc c'est l'ordre un peu qu'on peut appeler l'ordre de l'après-guerre. Et il y a plusieurs ferments qui ont fini par miner cet ordre de l'intérieur et ont fini par son explosion dans les années 80 avec la révolution néolibérale. Et un de ces ferments, c'est le ferment financier. La libéralisation, alors que suite à la crise de 1929 et ses suites, il y a eu des contrôles de capitaux relativement stricts, etc. Petit à petit, cet ordre, il a été miné de l'intérieur et par notamment une innovation qui a eu lieu à Londres, effectivement, ce marché des euro-dollars. En gros, c'était une manière de dire... les acteurs financiers, ils peuvent faire des opérations en dollars, même s'ils sont pas aux États-Unis, donc ils échappent à la régulation qui était à l'époque très stricte aux États-Unis, parce que c'était post-New Deal, etc. Et en même temps, comme ils sont pas en Grande-Bretagne, eh ben, ils échappent à la régulation de la Grande-Bretagne, donc voilà. Et donc, ils sont pas régulés. Et donc, ça crée un marché. Et donc, toutes les banques, petit à petit, tous les acteurs financiers se sont engouffrés dans cet espace qui a aussi fait fructifier les paradis fiscaux qu'on connaît aujourd'hui, les îles Vierges britanniques, Jersey, etc.
Guernesey, ouais. Tout à fait. Alors, je voudrais que on explique à nos auditeurs qu'il y a des champions français qui sont devenus des multinationales via l'Europe, via des injonctions européennes. Yvan, je pense à oui, EDF, Engie.
C'est tout le processus de l'ouverture à la concurrence entamé par la Commission européenne depuis les années 80, puis surtout au cours des années 90, qui vont aboutir à la privatisation au moins partielle de grands services publics comme les PTT, France Télécom, puis GDF, EDF, etc. Donc bon, EDF, l'État est quand même revenu dessus parce que ça reste une entreprise publique à majorité détenue par l'État, voire intégralement désormais. Mais voilà, du coup... Alors, c'est un peu l'ambiguïté sur la question de est-ce que la directive européenne, c'est est-ce que c'est le secteur qu'on ouvre à la concurrence, donc ou est-ce que on peut interpréter la France pour le coup, hein, et puis d'autres ont interprété de manière assez extensive la directive en disant il faut aussi privatiser l'acteur public central qui était présent historiquement dans ces services ou cette production, ce qui n'était pas forcément une obligation, parce qu'il aurait pu, on peut rester entreprise publique dans un secteur avec une concurrence d'autres entreprises privées.
Sachant qu'on respectait le bien public.
Et voilà, et du coup, bah, le bien commun, enfin tout ce qui est, toute la construction de ce service public ou de cette entreprise publique qui avait reposé sur l'investissement de l'État, du coup, a été privatisé et vendu.
Ouais. Et, depuis la Seconde Guerre mondiale, quand même.
Et voilà, et du coup, un des arguments politiques plutôt néolibéraux à l'époque, c'était de dire, ben voilà, en les ouvrant au privé, on va aussi leur permettre de s'installer beaucoup plus massivement chez nos voisins, ou voire de s'internationaliser plus largement, ce qui a été le cas de France Télécom Orange, maintenant qui est un fournisseur d'accès téléphonie mobile et internet très présent, et en Europe et aussi en Europe de l'Est. Donc c'est un peu ce jeu de dupes où on privatise d'un côté pour gagner des marchés, pour pouvoir gagner des marchés à l'étranger, et du coup voilà, en liquidant ce qui pouvait faire le fondement d'un bien commun et d'un service public ici.
Oui, alors que c'était un bien public qui a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale, sur un programme qui était le programme du Conseil national de la Résistance, quand même.
Oui, oui, ou une interprétation ensuite, parce que France Télécom, par exemple, c'est quand même la construction de tout le réseau téléphonique moderne à partir des années 60, 70, 80 en France, qui était plutôt en retard sur ses voisins à l'époque, donc c'est quand même des gros investissements de l'État. Bon, la SNCF est encore publique en théorie, mais elle se comporte quand même comme une entreprise privée, mais... Mm-hmm. voilà, c'est là où beaucoup, pareil, tous les investissements ont été amenés par l'État, enfin par le contribuable. EDF, c'est pareil, tous les moyens de production, enfin 90% des moyens de production d'électricité en France, c'est l'État qui a investi dessus via EDF. GDF aussi, alors maintenant, GDF qui a été fusionné avec Suez, une entreprise privée pour donner ensuite Engie. Voilà, c'est une forme de... Même s'il y a une vente d'actions à un moment donné, et du coup, les actions qui vont représenter un coût, mais ça n'a rien à voir avec l'ensemble des investissements qui ont été consacrés au développement de ces entreprises-là, de ces réseaux, et puis du coup, des services qu'elles pouvaient apporter aux populations.
Alors, pour conclure notre émission, on va parler des résistances, et des résistants et des résistantes. Je pense notamment aux 20 000 ouvrières qui ont fait grève et qui, par leur action, ont obtenu que le 8 mars soit la journée internationale de la femme.
Tout à fait. Bah, effectivement, l'histoire des multinationales, c'est aussi l'histoire de tous ceux et celles qui, depuis le début,
1910.
sont confrontés, essayent de changer le rapport de force. Et donc, une grande partie, évidemment, ça vient de ceux et celles qui travaillent dans les multinationales ou pour les multinationales, chez les sous-traitants, etc. Mmh. Et notamment... on en a parlé depuis le début, le modèle multinational, c'est la chaîne de valeur. Donc, on externalise et puis on fait produire
à moindre coût.
Et donc, depuis le début, la multinationale est associée à ce qu'on appelle les sweatshops, c'est-à-dire les ateliers, notamment textiles, et pas seulement, où dans des conditions horribles, on travaille notamment majoritairement des femmes. C'était le cas à l'époque, c'est le cas aujourd'hui encore. On travaille pour des entreprises textiles. Donc, aujourd'hui, on parle surtout des sweatshops au Bangladesh ou ailleurs. Mmh. Mais où c'est des femmes. À l'époque, c'était à New York, à Greenwich Village, où il y avait des masses d'immigrés, notamment d'Europe de l'Est, juives, etc., ukrainiennes, beaucoup d'ukrainiennes, qui travaillaient dans le secteur textile. Il y avait quelques salines, mais surtout des juifs d'Europe de l'Est. Et effectivement, avec des grands mouvements sociaux, dont cette grève des... qu'on appelle la grève des 10 000.
Voilà.
Et aussi, une catastrophe importante, il y a là aussi un effet d'écho qui est...
100 ans plus tard avec le Rana Plaza.
Voilà, qui est donc l'incendie d'un e-book qui s'appelle la Triangle Shot Waste Factory, qui a fait à l'époque quelques dizaines de morts, mais c'était quand même un événement historique qui a mené à plein de régulations importantes. Mais voilà, 100 ans plus tard, au Bangladesh, Rana Plaza 2014, où cette fois c'est plusieurs centaines de morts, même chose, mais bon, ailleurs, à l'autre bout du monde, mais comme quoi, malheureusement, l'histoire se répète.
1864, pour les anarchistes, l'AIT.
Donc à l'époque,
l'Association internationale des travailleurs.
Avec un certain Karl Marx et Bakounine.
Et Bakounine, bien sûr, on l'oublions.
Et c'est... c'est en fait...
J'étais contente de le voir dans votre... Ah, je me suis dit, quand même.
Bah, sinon, on n'aurait pas été invité.
Si, vous auriez été invité, mais je vous aurais fait la remarque.
Si on n'avait cité que Marx et pas que Bakounine, peut-être.
Je plaisante, un peu d'humour.
En dehors des États qui sont censés réguler et contrôler un minimum ce qui se passe, c'est... le premier contre-pouvoir réel qui émerge face à l'internationalisation de grosses entreprises et puis à l'émergence des premières multinationales. Donc c'est un premier congrès en plus qui réunit des ouvriers du textile, des ouvriers sidérurgistes, vraiment des gens qui de base. Donc quand on repense à l'époque, à la difficulté des moyens de communication, des moyens de transport, à la répression syndicale quand même, parce que les syndicats n'étaient pas institutionnalisés comme aujourd'hui, enfin en tout cas en Europe, aux barrières de la langue aussi, parce que là on retrouve des Belges, des Français, des Britanniques, des Allemands, etc., et qui vont commencer à discuter de comment on fait en sorte que... ne pas se faire concurrence entre travailleurs dans le cadre de cette internationalisation qui se construit, et comment on tente de défendre nos intérêts de manière commune, voire à faire des grèves communes, transfrontières, etc., transnationales. Et ça va être donc l'existence de l'AIT va être éphémère, mais ça va poser les bases quand même de quelque chose qui va après
être retentissant dans le monde.
Irradier, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais alimenter toutes les constructions syndicales,
je confirme.
Y compris politiques socialistes ou communistes ou libertaires qui vont se construire contre le pouvoir du capital. Et voilà, c'est un peu le moment fondateur. Quoi.
Voilà, et vous racontez très bien dans le livre qu'il y a des bases jusqu'à maintenant, en passant par le Chili d'Allende, 1936, toutes les grandes batailles sont irradiées par ce mouvement-là, justement.
Oui, et puis, on va peut-être y venir ensuite, là, mais en dehors du rôle du politique en termes de régulation, le contre-pouvoir syndical est le premier à émerger, et puis, qui va progressivement s'organiser. Alors, on peut estimer aujourd'hui qu'il est encore loin d'être suffisamment bien organisé, efficace et coordonné pour répondre aux enjeux des multinationales tels qu'ils se posent aujourd'hui. Et puis le troisième contre-pouvoir qu'on a identifié, c'est plus dans l'après-guerre, dans les années 50-60, c'est l'émergence des grandes organisations non gouvernementales ou de défense des consommateurs, avec d'abord des premières luttes pour la défense des consommateurs et des consommatrices, et face aux directions des grands groupes, et ensuite avec aussi la question environnementale, écologique, qui va commencer aussi à entrer dans la question de défense des droits humains en général, et puis la question écologique qui va commencer à arriver aussi dès les années 70-80.
Allez, justement, il y a un homme qui l'incarne bien. En 1990, c'est Ken Saro-Wiwa, pendu.
Oui, on est au Nigeria, donc c'est un des représentants du peuple Ogoni, qui a une des communautés de ce grand pays qui est le Nigeria. Mm-hmm. Et du coup, ils seront confrontés sur le golfe de Guinée, il y a beaucoup de gisements pétroliers, donc du coup, il y a la présence notamment, entre autres, mais de Shell, l'entreprise anglo-néerlandaise pétrolière, donc il y a Total aussi, mais Shell est quand même particulièrement présente là-bas, et qui va s'associer littéralement à la dictature nigériane pour réprimer toute revendication à la fois sociale et de défense de l'environnement des populations ogonies et qui voient leur territoire littéralement dévasté par l'exploitation pétrolière. Mm-hmm. Et donc Ken Saro-Wiwa, avec d'autres représentant, va être exécuté. Bon, et ça va donner lieu à un mouvement de contestation mondiale, d'opinion.
Le Nigeria a été exclu du Commonwealth. Voilà, et la journée du 10 novembre est journée de devoir de vigilance et de lutte contre au niveau européen. Alors, j'ai cherché dans ma DVTech et j'ai retrouvé le titre. Ça y est. Pour 2000, la bataille des Boliviens pour l'eau. Elle a été illustrée par un film, et pas n'importe lequel, un James Bond 007 avec Daniel Craig, Quantum of Solace. J'ai tout bon ?
Oui, effectivement. Mais c'est inspirant.
Merci. Je l'ai cherché parce que je l'avais vu, parce que j'ai un neveu qui a l'âge, il faut l'accompagner au cinéma. Donc je me suis farci 007. Les gens, ah bon ? Tu ne fais pas un essai ce soir ? Non. Et donc, je me rappelais de l'impact, pour que ce soit repris dans un film grand public, c'est vous donner une idée de l'impact de cette lutte des Boliviens de l'an 2000. Je vous renvoie au livre, il faut vraiment lire ce passage. Et aussi la lutte des Péruviens en 2004, contre des entreprises, notamment des géants français. Veolia, Suez et tout le reste. Et on arrive à 2017, où ça va être la conclusion, la loi du devoir de vigilance.
Donc effectivement, on a abordé un des grands enjeux, notamment depuis les années 1970, c'est cette question de mettre fin à l'impunité, notamment juridique, des multinationales, le fait qu'elles puissent, elles sont autorisées à évoluer par-delà les frontières et donc par-delà les règles. Et donc voilà, et les conséquences de ça, c'est qu'elles peuvent échapper à leurs responsabilités. Elles peuvent polluer l'environnement, elles peuvent être complices de massacres d'opposants comme en Ken Saro-Wiwa, tout en continuant à faire du business, à faire des profits. Donc c'est cette irresponsabilité des actionnaires, des financiers dont on a parlé. Et voilà. Et depuis les années 70, depuis l'IND, depuis les mouvements syndicaux, les ONG, il y a sur la table au niveau notamment de l'ONU, mais aussi au niveau national et dans différentes instances, cette idée qu'il faut absolument des règles pour les multinationales, parce qu'elles peuvent y échapper, des règles internationales. Et en fait, ça paraît une évidence, mais voilà, depuis les années 70, on essaye, il y a beaucoup de résistance, des milieux d'affaires, mais aussi parce que les années 70-80, on reste dans un contexte d'inégalité nord-sud, donc voilà, les États-Unis, mais aussi l'Europe, mais aussi voilà, les pays dont sont originaires les multinationales, préfèrent ce ne soit pas des pays du sud qui puissent emmerder leurs champions nationaux, pour être vulgaire, pardon, je ne sais pas si je devrais à cette antenne.
Non, 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 c'est vrai.
Et donc voilà, il y a une licence et voilà, on a plusieurs essais qui à chaque fois ont échoué. On a eu que des règles non contraignantes, des principes directeurs, des lignes directrices, des codes éthiques, etc. La RSE, elle s'est construite pour répondre à la contestation, mais en évitant à tout prix, donc la responsabilité sociale des entreprises, en évitant à tout prix des règles contraignantes. Et effectivement, cette date de 2017, c'est une des premières fois où il y a eu cette loi, une loi qui réussissait à quand même lever cet obstacle en partie, modestement, qui est cette loi française sur le devoir de vigilance des multinationales, qui ensuite a été répliquée, étendue au niveau européen avec une directive sur le devoir de vigilance qui a été adoptée l'année dernière. Donc c'est vraiment très récent.
Très, très récent.
Donc, on va pas dire que c'est la panacée, il y a plein de limites, notamment la directive européenne, etc. Mais bon, sur le principe, c'est une victoire de principe symbolique au moins, on peut dire que voilà, le principe qu'on pouvait rendre les multinationales responsables de leurs abus en termes environnementaux ou de droits humains était voilà, consacré. Il y a un traité qui est en négociation au niveau de l'ONU sur ce point. Enfin, c'est la troisième tentative pour faire un traité qui est en cours depuis plus de 10 ans. On sait pas sur quoi ça va aboutir. C'est en négociation encore cette année à Genève. Et voilà, ça montre à quel point c'est dur de remettre en cause cet ordre d'impunité sur lequel fleurissent, prospèrent les multinationales. Et avec cet ajout qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec l'élection de Trump et le changement, la guerre en Europe, la perspective d'une guerre en Europe, on est en train de changer, voilà, est en train de reculer sur ce point. Et l'Europe, y compris la France, pourtant qui est le pays où cette loi a été votée dans le cadre de la loi Sapin,
est
en train de pousser pour qu'on revienne sur tout ça, quoi. Et ça montre que voilà, même ces victoires chèrement acquises peuvent être remises en cause.
Et puis un des événements déclencheurs de cette loi, c'était l'effondrement de du Rana Plaza et la mort de plusieurs centaines d'ouvrières du textile Bangladesh, qui a été un événement fondateur.
Le choc pour les gens, ça a été de retrouver les étiquettes d'autant d'entreprises
occidentales, oui.
Occidentales, sous les cadavres.
On peut acheter très régulièrement.
Voilà, comme Zara, H&M, tout.
Et ça a montré totalement la limite des engagements volontaires, des responsabilités sociales non contraignantes quand il arrive ce type de drame. Malheureusement, souvent les progrès et les rapports de force ont été obtenus comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu des catastrophes et des drames pour que les choses avancent. Enfin, on voit sur les questions d'encadrement des sites industriels dangereux avec les accidents de Seveso ou plus tard de Bhopal. Voilà, il faut à chaque fois un événement dramatique, malgré les alertes en amont, pour que les choses avancent un petit peu.
En sachant que le Rana Plaza, ils n'ont pas été indemnisés, ou très peu. Bhopal, pas du tout. Et vous le dites bien dans votre livre, parce que vous revenez sur le drame de Bhopal. En ce qui concerne le devoir de vigilance, en France, il y a des procès dans ce cadre, notamment contre Total Énergie, pour tout ce qui se passe sur EAECOP. Donc, à suivre. Donc, on peut le suivre sur l'excellent site de multinational.org, qui est formidable, parce que le propos de ce site, c'est de donner une autre version que celle du 440. Et ça, j'ai trouvé que ce slogan était parfait. Je l'ai pas. C'est ça, hein, le slogan.
Bah oui.
En gros, c'est donner une autre version que celle du 440.
Oui, parce qu'il y a ce que cache la com du 440, effectivement. La réalité, c'est ce qu'on essaie de faire avec Basta en tant que journaliste. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est un peu comme, d'une certaine manière, ce livre, même historique, dans la continuité de cette idée, cette double idée qu'il faut montrer les multinationales telles qu'elles sont, au-delà de tout ce qu'elles racontent, des contes de fées qu'elles racontent, de la réalité des choses, et que voilà, on les connaît mal et on a besoin pour comprendre.
Une
partie des vraies causes de nos problèmes aujourd'hui, voilà, elles sont dans les machineries, donc effectivement des fois des entreprises qu'on connaît pas en tant que consommateur, des processus de fabrication dont on fait tout pour nous faire oublier comment ils sont faits, d'où ça vient, quel est le prix de nos téléphones, de nos vêtements, effectivement. Et un drame comme le Rana Plaza, ça met au jour, c'est ça qui conduit au changement, ça met au jour cette réalité. Donc on essaie de contribuer à ça à travers nos sites et à travers ce bouquin.
Alors, je rappelle, Yvan, le site de Basta.
Basta.media, oui.
Multinational.org.
Tout à fait.
On peut faire des dons ou deux.
Absolument.
Et il faut faire des dons ou deux, parce que vous en avez besoin pour continuer le travail contre les multinationales.
Et ça montre comment aussi l'information, enfin pas que nous, hein, mais l'information indépendante, on en parle d'ailleurs aussi dans le livre, avec l'émergence des premières enquêtes d'investigation journalistique au début du XXe siècle aux États-Unis.
Notamment sur celle du consortium des journalistes.
Oui, jusqu'à maintenant avec les consortiums internationaux de journalistes qui vont révéler des scandales financiers et d'optimisation fiscale. Donc le rôle d'une presse indépendante et de médias indépendants est super important aussi pour documenter ce qui se passe côté multinational.
Bien. Je rappelle le titre du livre, Multinational au pluriel, une histoire du monde contemporain, sous la direction donc d'Olivier Petitjean et d'Yvan Duroy, aux éditions La Découverte, dans la collection Cahiers Libres. Merci messieurs d'être venus nous en parler.
Ben merci à vous.
Merci Patrick de m'avoir aidé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci à Jean-Michel pour la technique. Au revoir.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier de la faillette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de les mains. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage.